Nadia Atroubi Safsaf, l'Atlas du souvenir.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
La fraternité est un mot qui a du sens, bien gravé sur son fronton à elle, de femme butée. C'est vrai qu'elle est journaliste, mais elle a de l'empathie, je le dis en souriant. Nadia Atroubi Safsaf, rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, ne chôme pas. Ses origines tunisiennes non plus, mais c'est à voir. À lire ce mensuel qui traite de l'actualité du Maghreb en Europe, à lire ses romans aussi, on sent que sa plume se lève chaque matin toujours inquiète par rapport à l'histoire et surtout lorsqu'elle fait des trous dans la raquette de la mémoire. En témoigne son frère de l'ombre sur le sacrifice pour la patrie des tirailleurs sénégalais, remercié par l'amnésie française. En témoigne aussi, ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants, sur ces résistants algériens qui ont sauvé des juifs lors de la rafle du Veldiv. Bienvenue en sol majeur à cette fille de France, en fraternité avec sa mémoire maghrébine et africaine.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le
peu de rose dans votre radio. Bonjour et malhaba, Nadia Troubi-Safsaf.
Soukran.
Alors, vous avez un faible pour mon amie la rose version Natacha Atlas. Pour quelle raison?
Je trouve qu'elle concilie bien mes deux origines, mon origine française et puis mon origine orientale. J'aime beaucoup les chansons à texte et en même temps, j'aime beaucoup la sonorité orientale. Donc, ça mixe bien. Elle m'emmène à chaque fois, elle m'embarque.
Ouais. L'Orient et l'Occident mélangés pour le meilleur.
Tout à fait.
Vous avez besoin de ça?
Longtemps, je me suis demandé qui j'étais et je ne sais toujours pas d'ailleurs, je n'ai pas encore de réponse définitive à cette question. Mais je sens qu'en moi cohabitent vraiment ces deux continents, j'ai envie de dire, l'Occident et l'Orient. Et ça m'emmène, ça me fait voyager et puis c'est des choses que j'ai envie de partager aussi. C'est ce que j'essaye de faire aussi au Courrier de l'Atlas. Je dis souvent qu'au lieu de faire confronter les choses, j'essaye de les faire cohabiter ensemble. Ça nourrit tout mon travail, c'est de faire cohabiter ces deux choses-là en même temps.
Alors très tôt en tout cas, puisqu'on va un peu raconter votre parcours, j'ai cru comprendre que la musique et les histoires avaient circulé dans votre chambre intérieure.
Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui.
S.
Mais quel genre d'oiseau es-tu donc qui ne sait voler, dit-il en haussant les épaules. À quoi le canard répondit « Quel genre d'oiseau es-tu qui ne sait nager ?»«
Est-ce comme... »
Et il plongea dans la mare.
« Symphonie de l'enfance. »
On aimerait bien continuer cette symphonie de l'enfance. Ça, c'est un souvenir de chambre intérieure, ce Pierre et le loup.
C'est ça, c'est mon premier souvenir d'opéra avec l'école. Et donc aujourd'hui, moi aussi, j'ai à cœur de le faire découvrir à mes enfants. Et la sorcière de la rue Mouffetard aussi, je sais si vous vous souvenez, ces belles histoires dont on parle moins aujourd'hui d'ailleurs, c'est bien dommage.
Ah là là, on ne va pas faire les sujets qui fâchent tout de suite. Alors il y avait Pierre et le loup, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi une petite musique tunisienne à la maison, notamment avec les matchs de foot du dimanche.
Ça va vraiment un souvenir avec mes frères et sœurs, on en rigole, c'est notre Madeleine de Proust à nous. Parce qu'on se souvient que mon père est un footix, comme on dit, qui voulait regarder absolument écouter tous les matchs de foot. Et du coup, on avait une antique radio avec une antenne qu'il avait bricolée. Et puis, il fallait qu'on la tienne chacun notre tour parce que c'était long, évidemment, 90 minutes. Donc, c'est là qu'il était content d'avoir 4 enfants, parce qu'on pouvait se relayer pour lui tenir l'antenne, pour qu'il arrive à capter les ondes. D'un autre monde, pour
d'un autre monde, parce que le match avait lieu en Tunisie.
C'est ça.
Et il fallait l'écouter dans la cuisine parisienne. Est-ce que ça veut dire que vous avez grandi comme ça entre ces deux mondes et entre ces deux cultures, entre Pierre et le loup et au hasard Nasreddine Hoxha, par exemple, les fameuses histoires?
En fait, ce qui est curieux, c'est que je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à la fac de ma double culture. Pour moi, elle allait de soi et j'étais très à l'aise avec ça. Et c'est vraiment à la fac de droit qu'on m'a dit « mais toi, tu n'es pas d'ici ». Et alors, ça m'a choquée parce que je m'y attendais tellement pas.
Alors, la fac était à Sceaux, en banlieue sud de Paris.
Et la première fois qu'on m'a dit ça, c'était au moment où il y avait tous les questionnements autour de la loi Pasqua sur le droit du sang, le droit du sol. Et je discutais avec une étudiante antillaise et qui m'avait dit « Mais non, mais toi, t'es pas d'ici. » Alors moi, je l'avais regardée avec des grands yeux parce que ça me paraissait bizarre qu'elle, étudiante antillaise, me dise ça. Et elle me dit « Ah mais non, moi, je suis française. Mais toi, t'es pas une vraie française. » Et ça m'avait interpellée parce que jusque-là, je ne m'étais jamais posé cette question de est-ce que je suis française ou pas. Et d'autres camarades qui m'avaient dit « Mais toi, tu as la peau très mate. » Et c'est drôle parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais pas pris conscience non plus que ma peau était mate. Vous voyez, je ne me posais pas du tout la question de l'altérité, j'étais moi.
Alors on va un peu parler de cet ailleurs, effectivement, parce que vos parents sont tunisiens tous les deux. Ils se sont rencontrés de quelle manière?
Alors c'est drôle parce que justement, c'est pas du tout dans le cliché de la femme qui épouse au pays et qui vient... Mes deux parents se sont rencontrés à Paris. Ma mère était déjà venue toute seule. Voilà, c'était une femme courageuse et qui avait perdu ses parents et qui avait envie d'ailleurs.
Pour un mieux vivre.
Tout à fait. Et puis elle a rencontré mon papa qui est arrivé quelques temps après. Parce qu'elle avait eu des soucis et le cousin de mon père avait dit « Tu diras que je suis ton frère. Comme ça, on ne t'embêtera plus et on saura que tu as quelqu'un avec toi. » Et du coup, quand mon père est arrivé, elle l'a présenté comme son cousin. Et donc voilà.
Et on épouse son cousin, forcément, voilà. C'est bien connu. Hein. Qu'ont fait vos parents pour vivre en France?
Alors, ma mère était d'abord femme de ménage pendant très longtemps. Et ensuite, elle a voulu avoir plus de temps pour mon frère et ma sœur. Et du coup, elle est devenue assistante maternelle après. Et mon papa était aide-cuisinier.
Vous êtes née en 76, Nadia Troubi-Safsaf, à Paris, et dans un Paris plutôt chic.
C'est ça. À Palais Royal, musée du Louvre. Wow. C'est toute mon enfance. Ouais. Et c'était une très belle enfance, puisqu'on avait accès à beaucoup de choses. Hein. On allait se promener.
Donc là, on n'est pas dans le préjugé classique de la famille maghrébine, émigrée, etc., qui se retrouve dans une cité dortoir ou dans une banlieue lointaine. Ah,
dont je suis victime pourtant, parce qu'on préjuge tout le temps que j'ai grandi en banlieue, dans une cité, dans une banlieue lointaine. Et j'explique à chaque fois que non, en fait, j'ai grandi à Palais Royal, musée du Louvre, qu'on a eu une vie tranquille, paisible, apaisée. Pas d'histoire à faire pleurer dans les chaumières.
Et on est désolé.
Oui,
hein.
Des fois, j'ai l'impression que je dois m'en excuser par moment.
Oui, je vois bien. Alors sans doute que le milieu dans lequel vous allez vivre et dont vous allez nous dire peut-être deux mots tout à l'heure, vous amènera des années plus tard à vous intéresser au déterminisme social, le fameux concept de Pierre Bourdieu.
S'il m'arrive d'être, oui c'est vrai, si je suis particulièrement sévère pour les intellectuels, c'est parce que je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions pour échapper aux déterminismes sociaux. Mais ils auraient les moyens. Bon. Mais comme ils mettent un point d'honneur à les ignorer, à les dénier, à cracher sur la sociologie, enfin j'ai pas d'autre mot, il suffit de dire sociologie, aussitôt les intellectuels sortent le revolver, philosophes, poètes, écrivains, enfin. Bon, comme ils passent le temps à les dénier, ils en sont victimes. Bon, je pense que c'est une méchanceté que j'aime dire, parce qu'elle est vraie. La propriété majeure des intellectuels, c'est l'illusion de la liberté à l'égard des déterminismes sociaux qui fait qu'ils sont, d'une certaine façon, particulièrement soumis à ces déterminismes. Voilà. Alors quand le sociologue arrive avec ses instruments de connaissance, qui sont quand même assez puissants, et qu'il porte au jour des nécessités, les lois de la reproduction scolaire, enfin, etc., des choses comme ça, c'est un peu insupportable, et on lui en veut. Alors on aurait envie de tuer le messager en oubliant que lui aussi, parfois, est malheureux de porter ce message. Donc c'est pas toujours agréable d'être le prophète du malheur, l'annonciateur des mauvaises nouvelles. Bon, et voilà.
L'indispensable et très énervant Pierre Bourdieu pour En sol majeur. Après lecture de ce grand sociologue, qu'est-ce que vous diriez, vous, Nadia Atroubi-Safsaf, française, fille d'immigrés tunisiens, issue donc dans une des rares familles maghrébines à vivre dans ce quartier de vieille famille française du côté du Louvre, à Paris. Qu'est-ce que vous diriez de la manière dont vous avez eu à vivre ce qu'on appelle le déterminisme social ?
Alors je me rappelle très précisément de quand j'ai compris le déterminisme social, parce que c'est notre professeur d'économie et de sciences sociales, Madame Lelouch, au lycée Sophie Germain, qui nous avait expliqué que 6% à l'époque des enfants d'ouvriers avaient le bac. Et moi, je m'étais dit, mon Dieu,
je ne vais pas rentrer dans les 6%.
Il faut que je rentre dans les 6%. Je me suis dit, il faut que j'y sois. J'étais l'aînée. Et donc j'avais cette pression aussi, mes deux parents ne savaient ni lire ni écrire le français, donc j'avais cette pression de dire qu'il fallait... Ma mère m'a toujours dit, t'es la locomotive.
Ah oui.
Et si toi tu réussis, tes frères et sœurs y réussiront. Ça c'est le leitmotiv de ma maman. Donc quand j'entends ça, en seconde, ça allume la lumière à tous les étages. Et là je me dis, il faut que je sois dans ces 6%. J'ai pas le droit à l'échec.
Donc c'est un moteur en fait.
C'est un moteur. Et surtout, j'avais en tête, je me rappelais que ma mère est une femme très intelligente, qui n'a pas eu la possibilité d'étudier, d'aller à l'école, mais qui est très intelligente. Et elle s'était ouverte de ce sujet à une autre maman en disant, moi, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille? Je veux qu'elle réussisse à l'école. Et je me rappelle, cette dame était une de nos voisines et elle lui avait dit, mais vous savez, on aura toujours besoin de femmes de ménage en France. Et moi, j'avais 8 ans. Alors, ça peut paraître très anecdotique, très cliché, mais moi, cette phrase... Elle me sert d'aiguillon. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais fatiguée, que je n'avais pas envie de travailler, je repensais à cette phrase et je me disais non, je ne serai pas femme de ménage et oui, j'aurai mon bac. Ouais.
Qu'est-ce que le fait de vivre dans cette famille maghrébine, dans le centre historique en fait, de Paris, enfin c'est un des coins les plus chics de Paris, de notre capitale, qu'est-ce que ça a déterminé alors pour vous ?
Je pense que les gens calquaient beaucoup de représentations. Ce n'était pas méchant. Par exemple, d'autres voisins qui disaient à leurs enfants, regardez, leurs parents, ils ne savent pas parler correctement. Et regardez, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils travaillent bien à l'école. Et en fait, c'est des mini-agressions.
Oui, vous étiez montré en contre-exemple par les vieilles familles françaises.
Mais du coup, c'est vrai que se construire en opposition, ce n'est pas quelque chose de facile. Et moi, je n'ai plus envie d'être en colère. Je n'ai plus envie de me construire en réaction d'eux. Je voudrais que mes enfants, par exemple, se construisent naturellement. Je leur dis que si elles veulent faire un métier manuel, elles peuvent faire un métier manuel. Si elles veulent être coiffeuses, elles seront coiffeuses. Je ne veux plus qu'elles ressentent cette pression que moi, j'ai pu ressentir. Et j'ai mis du temps à m'en détacher. Et d'être en posture d'être reconnue aussi. Et que de vouloir être validée par les autres nous conduit ou à la déception ou à l'amertume. Et qu'en fait, il faut se détacher de ça et qu'il faut être juste ancré avec soi-même, en fait.
Bah, vous l'avez été ancré et vous l'avez fait en vous cherchant. Hein. Au lycée, vous vous retrouvez donc dans un, faut peut-être qu'on en dise un tout petit mot, dans un milieu très mélangé. Vous êtes notamment très proche de la communauté juive.
Oui, on ne se posait même pas la question en fait de qui était juif, qui était chrétien, qui était musulman. On était dans notre lycée parisien qui était du côté du Marais. Moi, j'ai coutume de dire que j'ai mangé kasher avant de manger halal.
Ah oui.
On allait manger du pastrami, des sandwichs au pastrami et tout ça. Et en fait, ça a nourri aussi ce que je suis. C'est-à-dire que je ne définis pas les gens, je n'essentialise pas les gens.
Alors, après vos études de droit, donc à cette fameuse fac de Sceaux, études que vous allez abandonner pour des raisons qu'on devine maintenant, vous enchaînez avec les lettres modernes parce que vous êtes dans un moment de recherche apparemment. Vous dites que vous êtes dans une crise identitaire.
Oui, parce que comme je ne connaissais pas assez la communauté maghrébine, puisque j'en connaissais pas autour de moi, il y avait quelques familles. Et par réaction, comme ça se passe assez mal dans cette fac de droit, on me montre beaucoup du doigt.
On vous renvoie sur cette identité,
oui,
en fait.
Oui, puis les garçons qui font des paris sur qui va sortir avec moi, avec la maghrébine, enfin des trucs. D'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je fais une thèse sur la représentation de la femme arabe, en fait, entre sexe et fantasme. Je pense que ça vient aussi de cette expérience à la fac. Et du coup, j'ai envie de découvrir autre chose. On me parle de Paris 8. J'ai envie de traverser le périph' et j'ai envie d'aller rencontrer d'autres gens comme moi. Et alors ça fait tout le temps rire ma mère, parce qu'elle me dit, mais les gens, ils font le contraire,
ouais,
en fait.
Moralité ?
Ben, j'ai adoré. D'abord, Paris 8, c'est une fac extraordinaire pour son foisonnement. D'ailleurs, j'y suis retournée, là, j'y suis doctorante aujourd'hui. Pour son foisonnement, on pouvait créer des journaux, il y avait des tables rondes, il y avait une prise de conscience politique extraordinaire. C'est mes meilleures années.
Donc c'est là que vous découvrez le journalisme, le désir du journalisme.
J'avais commencé un peu à la fac de droit, il y avait un petit journal, mais vraiment c'est à Paris 8 que je me rends compte que c'est le métier que je veux faire. Et puis toute cette émulation intellectuelle, moi c'est là-bas que je découvre Cheikhanta Diop, que je découvre Fanon, que je me dis mais tout ce monde que j'ignorais, Albert Memmi, tout ça que j'ignorais.
Grand auteur tunisien, oui. Alors, votre intérêt pour l'histoire, la grande, on comprend bien, ça naît à ce moment-là, mais votre intérêt pour ce qu'on va appeler les trous de l'histoire, est-ce que ça naît à partir d'une révélation, d'un événement particulier pour vous, Nadia ?
Alors, je n'ai pas d'explication logique à cet intérêt. Je dévorais déjà Zola, par exemple. J'ai toujours aimé les romans un peu comme ça, journalistiques. Et je me suis rendu compte, juste en cheminant, qu'il y avait tellement de choses qu'on ne nous enseignait pas à l'école. Par exemple, quand on apprend le 8 mai 45, moi, on ne m'avait jamais expliqué qu'en même temps, Assétif et Guelma,
en Algérie,
ont tué des gens parce qu'ils manifestaient pacifiquement. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on a pu maintenir en place le préfet Papon un 17 octobre 61 quand on connaît sa responsabilité dans le sort des Juifs français. En fait, il y a tellement de choses que je voulais apprendre et je me disais mais si moi je les découvre, il y a d'autres gens qui doivent aussi les découvrir et je trouve qu'il faut regarder le passé avec lucidité pour avancer. Je ne dis pas qu'il faut qu'on s'excuse pour tout, mais je dis qu'il faut regarder ce passé, le comprendre. Parce que c'est ce qui permet aussi de peut-être comprendre aussi l'amertume de certains, de comprendre ce qui se passe dans leur tête, d'avoir un sentiment de rejet, d'être incompris, parce qu'il n'existe pas dans l'histoire.
Alors avec ce nouveau roman que j'ai sous les yeux, qui vient de paraître aux éditions Zellige, « Frère de l'ombre », il va être question des tirailleurs sénégalais. Et pour ce roman, forcément, vos recherches, qui sont multiples, j'imagine, vous ramène vers le cinéma et notamment vers la pellicule d'un film intitulé Cantiaroy.
Hé chef !
C'est quoi même ?
Ça c'est Mazi de quoi ?
Ça c'est ordinaire tirailleur.
Tu connais ? Tu connais Cartophone ? Eri Tabaga ? Ça Mazi d'un camp prisonnier allemand. Cartophone même mieux que ça.
Même quand on refusait Mazi.
Moi, simple chef cuisinier, moi, pas intendant, préparez ce qui est donné moi. Vous là, pas contentement, montez voir général. Pas de fassement, pas de bagarrement.
Vous dites quoi ? Pourquoi pas viande pour nous ?
Viande pour blanc, comme ça. Viande pour métis, comme ça. Viande pour originaire, comme ça. Ha, restez viande pour tirailleur. Une fois la semaine, toi, droit viande petit, 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 petit morceau comme ça.
Vous dites quoi ? Est-ce qu'il est guerre ? Il y a balle comme ça pour blanc.
Tea.
Balle comme ça pour métissi. Balle comme ça pour originaire.
traité comme...
Et petit, petit balle comme ça, pour combattant, pour du con.
Tirailleurs sénégalais.
On ne se lasse pas de ce film Kantiaroy signé Simben Ousmane. Je ne sais pas si vous parlez le tirailleur.
Non,
Nadia Atroubi-Safsaf. Film essentiel, évidemment, qui le dit justement dans la langue des tirailleurs. C'est l'une des forces de ce film qui dit le traitement pour service rendu à la nation pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale qui n'était pas le même pour les tirailleurs. Sur le plan de la nourriture, on vient de l'entendre, sur l'histoire des pensions plus tard. En revanche, les balles étaient bien les mêmes pour tout le monde. Est-ce qu'un film comme celui-là a fait partie des objets qui vous ont aidé à traiter cette question?
Alors, je l'ai regardé après. Je ne voulais pas être trop dans l'émotion et trop dans le... une fois que j'ai fini mon livre, je l'ai regardé. Et je me suis dit, de toute façon, je vais l'utiliser pour la suite, puisqu'il y a une suite au livre, et ce sera sur le massacre de Tiaroy, justement, la suite.
En 1944.
Voilà, en 1944. Et c'est vrai que j'avais longtemps ignoré son existence, c'est-à-dire qu'avant de commencer à travailler sur la question des tirailleurs...
Film interdit très longtemps, d'ailleurs.
J'en avais jamais entendu parler, je l'ai trouvé sur une plateforme connue.
Alors vous, Nadia, vous avez choisi d'évoquer cette question des tirailleurs à travers trois hommes... Trois destins dont vous allez nous déplier un peu les trajets. Issa, Ousmane et Djibril. Qui sont-ils?
Alors Issa, c'est le tirailleur de la Première Guerre mondiale. Ousmane est le fils d'Issa, mais Issa ne l'a pas connu puisqu'il a laissé son épouse enceinte. Et Djibril est le petit-fils de Ousmane, qui a envie de savoir ce qu'est devenu son grand-père. Et celui que je préfère des trois personnages...
Ah, vous avez un préféré, d'accord.
C'est Issa. Ouais. Le tirailleur de la Première Guerre mondiale, parce que je l'ai un peu écrit en imaginant le grand-père que je n'ai pas connu, parce que je n'ai connu aucun de mes grands-pères. Il y a beaucoup de moi dedans, dans le sens où comment j'aurais imaginé mon grand-père avec des valeurs fantasmées.
Alors, on va justement s'arrêter une minute en sol majeur, page 16 de votre roman « Frères de l'ombre », sur le destin donc de Issa, qui est pris dans la Grande Guerre. On est en 1916. Au moment où les Allemands sont sur le point de reprendre le fort de Douaumont, ultime bouclier avant Verdun.
Sa position stratégique au milieu du champ de bataille constitue un parfait abri pour stocker des munitions.
Le drame de l'Afrique.
Reposer les troupes et soigner les blessés.
Ces colonnes africaines.
Après plusieurs tentatives, c'est le 24 octobre que le fort avait été enfin repris.
N'est pas assez entré dans l'histoire.
Au grand dam de l'ennemi qui avait depuis multiplié les offensives.
Le paysan africain.
Issa et ses camarades n'avaient pas cédé en dépit des assauts successifs du froid et de la faim.
Avec les saisons.
Très peu de ravitaillement leur parvenait. Ils avaient même dû se rationner en eau.
Avec la nature.
Pendant 10 semaines, ils avaient défendu vaille que vaille leur position.
Ne connaît que l'éternel recommencement du
leur
temps,
chef, le capitaine Delattre, les encourageait en leur répétant inlassablement « Ils ne passeront
des
pas ».
Gestes,
il avait lui-même donné l'exemple
et des mêmes paroles,
en chargeant en première ligne.
Dans cet imaginaire,
contre toute attente et à leur grande surprise,
où tout
ils avaient même réussi à reprendre une partie du terrain.
Toujours.
Le groupe de tirailleurs s'était battu corps et âme pour la mère patrie.
Il n'y a de place ni pour l'aventure humaine,
les enjeux les dépassaient,
ni pour l'idée de progrès.
Mais tous voulaient qu'au pays, on parle d'eux avec fierté.
Nadia Atroubi Safsaf, dans ce roman Frères de l'ombre, donc vous faites revivre le parcours d'Issa depuis son Sénégal natal, où il laisse sa jeune épouse enceinte. Il va rejoindre donc les tranchées, il va être blessé en Belgique en 1914, participer à l'expédition des Dardanelles en 1915 où il reçoit une balle à la jambe droite et il aura une claudication à vie. Et puis arrive donc ce chapitre autour de Douaumont où il sera finalement fusillé pour l'exemple. Que s'est-il passé?
Alors, c'est ses convictions et à la fois religieuses et à la fois humanistes, c'est qu'il n'accepte pas que les corps de ses camarades restent comme ça à l'air. Parce que
Sans sépulture,
parce qu'il y a tellement de morts, on ne s'amuse plus à les récupérer. Quand je dis on ne s'amuse plus, bien sûr, c'est ironique. Et il a fait une promesse à un autre tirailleur musulman qui ne le laisserait pas sans sépulture, pour qui c'était important d'être enterré selon les rites de sa religion. Et donc, il va se mettre en danger il ne réfléchit pas aux conséquences. Il demande pourtant l'autorisation, mais il est trompé par un ennemi qui est le colonel Buchy.
Raciste.
Raciste et qui aussi spécule, c'est-à-dire qu'il fait de l'argent en fait. C'est...
Il spécule sur... Il fait de l'argent comment, faut le dire.
Il spolie des fermiers des alentours. Et donc, il n'a pas le respect de ces hommes. Parce que ces hommes voient à qui ils ont affaire. Mmh. C'est un pleutre. Et donc, ils n'ont pas de respect.
Un planqué, en même temps.
Un planqué. Et du coup, il n'a pas le respect de ces hommes. Et donc, il trompe la loyauté de Issa. Et il veut en faire un exemple. Et c'est un homme qui...
Il veut le faire passer pour déserteur, surtout.
C'est ça. C'est ce qui touche le plus Issa, en fait. Parce qu'il ne veut pas qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un qui n'avait pas de loyauté ou de dignité. Et c'est ça qui le tue peut-être plus que d'être fusillé, finalement. Mmh.
Est-ce que c'est basé sur une histoire vraie ?
Non. Alors, oui et non. Je réponds Alors. Trop vite. Oui, il y a eu beaucoup de fusillés pour l'exemple, pendant la Première Guerre mondiale. Il y a eu des réhabilitations après. Et c'est vrai qu'il y a des familles qui ont été détruites, des familles françaises, hein, pas seulement sénégalaises, mais aussi des familles françaises, à qui on a dit que leur mari, leur frère, leur père étaient des gens ignominieux, alors que c'était faux.
Alors vous dites que ce livre, Frères de l'ombre, est une réponse au discours de Dakar, d'un certain Nicolas Sarkozy, ce discours disant que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. En fait, c'est un contresens, et je l'apprends sous votre plume, un contresens absolu avec une autre phrase d'Aimé Césaire.
Oui, que j'ai mis en préambule du livre, quand, au congrès des auteurs africains de 1956, quand il dit, je ne sais plus exactement la phrase d'ailleurs.
Il dit exactement « Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire
». C'est ça, et Nicolas Sarkozy a voulu en faire une... dans son discours, qu'il n'avait pas écrit hein, d'ailleurs. Depuis, ça a été documenté, on sait que ce n'est pas lui qui l'a écrit, qu'il l'a découvert au fur et à mesure qu'il le lisait et qu'il essayait de transformer au fur et à mesure ce qu'il lisait parce qu'il voyait bien que ce n'était pas possible de dire ça à cette université de Cheikhanta Diop. Et donc, je trouve qu'il a fait aussi un contresens en ne corrigeant pas ça tout de suite. Et je trouve que c'est un affront aussi pour les hommes qui ont laissé le prix du sang en Champagne aujourd'hui. Cette terre, elle est nourrie aussi du sang des tirailleurs sénégalais. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
Alors, l'intérêt de votre roman réside dans le fait qu'effectivement, on voit se déplier l'histoire avec un grand H sur trois générations, donc celle d'Issa dont on vient de parler, mort sans les honneurs de la patrie. Et puis ensuite, celle d'Ousmane, donc son fils, enrôlé à son tour dans la Seconde Guerre mondiale, prisonnier du Front Stalag, dont il s'évade jusqu'au moment où, dans sa fuite, il va rencontrer une certaine Hélène. La belle Hélène, j'ai envie de dire. Hein. C'est un lien qui va se nouer et qui démontre peut-être que l'histoire n'est pas manichéenne, Nadia.
Mais c'est ça, mais j'aime beaucoup l'idée de dire que c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Alors, mauvais jeu de mots, mais c'est le cas. C'est de dire qu'effectivement, on ne peut pas dire que tous les Français étaient des collaborateurs. On ne peut pas dire que tous les Français étaient des résistants. On ne peut pas dire que tous les tirailleurs sénégalais avaient cet amour de la patrie. Enfin voilà, les choses, elles sont, comme vous le dites, moins manichéennes. Et ce que je voulais montrer, c'est aussi les doutes, c'est aussi les interrogations. Et puis... ce désir d'humanité, j'ai envie de dire entre guillemets, quand Hélène, finalement, elle tombe amoureuse d'Ousmane, elle ne tombe pas amoureuse d'un homme noir. Et d'ailleurs, c'est ce que finit par accepter le père d'Hélène, c'est d'avoir face à lui un homme de valeur, de conviction, et il le voit.
Donc on a Issa, on a Ousmane, son fils, et puis on a Djibril, donc là, qui est jeune entrepreneur français, et qui découvre l'histoire familiale prise dans la grande histoire au moment où Ousmane, son grand-père, disparaît mystérieusement.
Ce que je relève beaucoup autour de moi, c'est que soit on a affaire à des gens qui sont connaissent très bien leur histoire, soit des gens qui ne connaissent pas leur histoire. Et cette dichotomie, je la trouve fascinante parce que ça, c'est des gens qui sont assez militants, vraiment qui sont dans la transmission, dans la recherche. Et là, je vois une génération qui arrive derrière nous, mais qui est au taquet hein, sur les questions d'identité. Et en même temps, des gens qui vous disent « non, non, mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Et au milieu, il y a quoi ? Et en fait, moi, j'essaye de m'adresser aux gens du milieu.
C'est qui les gens du milieu ?
Et ben, les gens qui ne connaissent pas leur histoire, mais qui aimeraient bien la connaître, et facilement.
Mais pourquoi cette lecture, alors, sur cette question des tirailleurs sénégalais, sur trois générations ?
Alors, on revient toujours à soi, je pense. Quand on apprend à se connaître, ouais. on voit qu'on fait
on
beaucoup...
On parle toujours de soi.
Ouais. On parle beaucoup de soi. Ça doit être le fait de manquer, moi, de racines. Je dis souvent qu'on est comme des arbres, qu'on a besoin d'enfoncer nos racines dans une terre et que nos parents ne nous ont pas toujours transmis toute l'histoire familiale. Moi, je pose beaucoup de questions à mes parents et il y a des moments où ils ne savent pas trop me répondre. Et puis,
donc sur l'histoire de la Tunisie,
oui,
en l'occurrence.
Par exemple, la Tunisie. Et il me dit « Non, mais je ne pensais pas que ça t'intéressait. » Quand je lui dis « Mais pourquoi tu ne nous as pas raconté ça ?» Alors qu'il nous racontait d'autres choses, par exemple. Et je lui dis, bah, tu sais, je pense que c'est pas pour rien du coup que je m'intéresse beaucoup aux questions coloniales et que finalement, peut-être que ça a un lien aussi avec la mort de mon grand-père qui est mort sur des travaux de terrassement demandés par l'occupant français, quoi.
Vous diriez donc que votre manière à vous d'être française, c'est de travailler ses appartenances maghrébines et africaines ?
Alors, je dis souvent que, parce qu'on parle beaucoup d'intégration, pour moi, faut pas parler d'intégration, mais revenir vraiment à la citoyenneté, et que la citoyenneté, c'est donner à chacun une place dans l'histoire. Et que pour trouver une place dans l'histoire, il faut lui raconter son histoire, tout simplement. Donc rapprocher plutôt que diviser.
Sauf que vous, vous allez beaucoup plus loin, puisque vous vous attaquez donc à ces fameux trous de l'histoire en adoptant une posture différente du récit et de la version officielle de cette histoire. Est-ce que vous diriez que c'est aux enfants français de retrousser les manches pour en faire quelque chose de cette histoire ?
Oui, puis je me cache un peu, parce que j'utilise quand même la fiction. Je ne le fais pas de manière en tant que journaliste, je le fais en tant que romancière. Bien que j'essaye de faire le même exercice au courrier de l'Atlas en parlant de sujets oubliés, mais j'ai envie de faciliter cet accès à nos enfants.
Mais vous vous cachez aussi parce que vous vous attaquez à un chapitre d'histoire qui est celui des tirailleurs sénégalais qui a priori ne vous concerne pas au premier chef, même si ça fait partie de notre histoire de France. Vous ne vous attaquez pas en revanche à l'histoire de la Tunisie.
Alors j'aimerais bien, mais je ne voulais pas être enfermée parce que malheureusement, vous savez qu'en France, on aime bien enfermer les gens dans les cases. Et donc, en étant rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, en ayant commis un premier roman sur les résistants algériens, je me suis dit que si en plus, je finissais par faire un deuxième roman sur les tirailleurs tunisiens, j'étais finie. J'allais être cataloguée auteur maghrébine sur sujet maghrébin. Et je n'avais pas envie de ça. Et puis, je rajouterais aussi que les tirailleurs sénégalais, c'est aussi, en tant que maghrébine, je suis aussi africaine. Donc les tirailleurs sénégalais, c'est doublement mon histoire, en tant qu'africaine, mais aussi en tant que française.
Est-ce que vous portez un objet qui a un lien avec vos origines ?
Nadia Atroubi, Safsaf.
J'ai ce petit bracelet porte-bonheur.
Main de Fatma.
Avec une main de Fatma, comme ça. Alors pareil, ça peut paraître très cliché, mais voilà, je l'ai acheté en Tunisie, justement. Et j'ai l'impression qu'elle me porte bonheur, je ne l'enlève jamais. Et c'est un clin d'œil à mes origines tunisiennes.
Bijoux, pas bijoux ?
Oui, bijoux. Oui.
Rituel, pas rituel ?
Pas rituel. Après, il y a des choses auxquelles je n'échappe pas. C'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, le jour de l'Aïd, c'est important d'aller à la mosquée, c'est important de mettre des belles tenues, c'est important de faire des gâteaux, de partager ce moment-là, surtout pour les enfants, parce que je veux aussi être dans la transmission avec mes enfants. Mais je ne veux pas qu'ils vivent ça non plus comme un poids. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux qu'ils soient à l'aise aussi avec leur triple nationalité maintenant, puisque leur papa est d'origine algérienne, donc ils sont français, tunisiens, algériens.
Le viol, un tabou décuplé chez les musulmanes. Ça, c'est le dossier d'un des numéros du Courrier de l'Atlas, je crois, du mois de mars. Je rappelle donc que vous en êtes la rédactrice en chef et que c'est un magazine qui traite de l'actualité du Maghreb en Europe. Donc évidemment, la question qui s'impose, c'est pourquoi ce choix journalistique ?
Alors on va revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'essentialisation, parce que moi, quand j'ai commencé le journalisme, les sujets qu'on me proposait quand j'étais pigiste, c'était de me dire t'as pas un sujet sur la banlieue, un sujet sur la drogue ? Et je leur disais non, mais je connais pas ces sujets-là, en fait. Enfin, je me retrouvais pas dans ce qu'on me proposait. Et puis, il y a eu la création de ce magazine auquel moi, j'ai postulé normalement. J'ai envoyé des propositions de pige et puis je suis rentrée.
Mais ça faisait sens pour vous ?
Au début, oui, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, un magazine du Maghreb qui parle des Maghrébins, mais je ne le connaissais pas. Il venait de commencer, ça faisait 6 mois. Et donc, j'avais proposé, je me rappelle, un sujet sur la contrefaçon. Et c'est comme ça que j'ai commencé pigiste.
La contrefaçon de quoi, par exemple ?
De marques, de vêtements, avec le Maghreb, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de contrefaçons au Maghreb. Et puis, j'ai commencé pigiste. Et puis, à force de faire des piges, ils m'ont proposé de rejoindre la rédaction. Donc, je suis devenue journaliste permanente. Et on m'a dit, voilà, écoute, on voudrait que tu prennes la rédaction en chef. Et c'était il y a 9 ans. Mm-hmm. Et ça fait 9 ans que... que je porte ouais. la rédaction. Et voilà, je me dis qu'il serait temps peut-être de laisser place à quelqu'un d'autre. Voilà, je réfléchis parce D'accord. que je me dis que...
D'autres projets peut-être.
Bah, je me dis que c'est bien pour un magazine aussi d'avoir un nouveau souffle. Mmh.
Alors si on parle du Maghreb, il faut vraiment que l'on fasse un petit crochet par l'Algérie, je crois, dans votre cas, Nadia, pour écouter une voix qui vous est chère, c'est celle du romancier kabyle algérien, donc Mouloud Feraoun, proche d'un certain Albert.
Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot, dans Actuel 3. Dernière partie, celle qu'il a écrite en 1956. Il dit bien que, à propos des événements d'Algérie, il dit « j'ai mal à l'Algérie, comme d'autres ont mal aux poumons ». Cela est très significatif, je crois. Il n'arrivait pas, j'ai l'impression, il n'arrivait pas à voir clair en lui-même. Il n'arrivait pas à voir une issue. Il aimait beaucoup l'Algérie, par conséquent, il était donc algérien. D'un autre côté, c'est un grand écrivain français. Son déchirement est concevable pour un homme aussi sensible, aussi juste, aussi intègre que lui. Quoi qu'il en soit, les musulmans algériens, je crois, n'est-ce pas, le comprennent et l'admirent et l'aiment, n'est-ce pas. Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui, précisément, qu'il se soit cantonné dans ce silence. Et pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous.
Ce très joli accent kabyle de Mouloud Feraoun. Alors c'est moins sur Camus que sur Feraoun lui-même que j'aimerais entendre battre votre cœur, Nadia Atroubi-Safsaf. Que s'est-il passé entre vous et ce romancier qui, je vous rappelle, a été assassiné en 61 par l'OAS?
Je me suis beaucoup retrouvée dans Le Fils du Pauvre.
Alors,
pourtant, bon, j'avais à manger. Hein, quand il raconte qu'il mangeait une pomme de terre, je sais pas. Mais en fait, ce que je retrouve dans Mouloud Feraoun, c'est cette obligation de réussite. C'est-à-dire que toute sa famille a foi en lui et il doit absolument réussir. Vous savez, quand il part à l'école normale pour devenir instituteur, et qu'il sent qu'il a le poids de toute la famille sur ses épaules. Ouais. Et quand je l'ai lu, ça m'a fait penser...
À cette phrase que votre mère vous disait ?
Qu'il faut que tu réussisses, tu es la locomotive de tes frères. Si toi tu réussis, ils réussiront. Voilà, j'avais le sentiment que quelqu'un comprenait ce que moi je ressentais aussi. Voilà, il y avait une résonance.
Vous n'avez pas seulement épousé un Algérien, j'ai l'impression que vous avez épousé l'Algérie un peu.
C'est ça. Enfin, c'est un pays merveilleux, l'Algérie.
Mais vous échappez à ce préjugé qui veut que ce soit chien et chat entre les Tunisiens et les Algériens.
Alors, écoutez, on me dit souvent, quand je dis que je suis en Tunisie, quand je dis que je suis algérienne, on me dit « Hassanès », donc les meilleurs gens. Non, toujours très très bien accueillis. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt entre les Marocains et les Algériens que c'est un peu compliqué, mais...
Bon. Les origines maghrébines, mais pas que, sont en tout cas à la manœuvre sous votre plume pour un autre roman, le roman précédent intitulé « Ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants », toujours aux éditions Élige. Et ce roman s'ouvre sur l'amitié contrariée entre Leïla, musulmane, et Anne, juive. Une amitié qui est en fait une amitié transgénérationnelle entre leurs deux familles, nées pendant la Shoah, se poursuivant pendant la guerre d'Algérie et à l'épreuve avec le conflit israélo-palestinien. Et le secret de cette amitié, eh bien Leïla va le trouver dans un journal intime.
17 juillet 1942. Hier, il y a eu des arrestations en masse, orchestrées par des policiers français. Les autobus remplis de civils étaient stationnés devant les immeubles d'habitation. On y voyait sortir des enfants avec leurs baluchons, s'agrippant apeurés à leur mère. La boulangère était sortie sur le perron. Elle applaudissait les policiers. Je l'ai fixée du regard jusqu'à ce qu'elle rentre, se réfugier dans sa boutique. Je te rassure, nos amis sont en sécurité, mais pas leurs parents. Je n'ai hélas rien pu faire. Je suis allée toutefois me renseigner aux abords du Veldiv, là où j'ai appris qu'ils avaient été emmenés. Les policiers m'ont dit de déguerpir si je ne voulais pas finir en cabane moi aussi. J'ai rejoint mon groupe et dans la nuit, nous avons publié un tract en kabyle et en français pour dénoncer toutes ces ignominies. Je te le retranscris ici. Comme nos enfants. Hier, à l'aube, les Juifs de Paris ont été arrêtés. Les vieillards, les femmes, comme les enfants. En exil comme nous, ouvriers comme nous, ce sont nos frères et leurs enfants sont nos enfants. Si quelqu'un d'entre vous rencontre un de ses enfants, il doit lui donner asile et protection le temps que le malheur passe. Enfant de Kabylie, ton cœur est grand.
Qui est l'auteur de ces lignes dans votre roman, Nadia Atroubi-Safsaf?
Alors c'est Salah, le grand-père, qui écrit à sa sœur, qui est restée en Kabylie.
Ça, c'est un extrait de son journal intime.
Voilà, et en fait, il écrit des lettres qu'il n'a jamais envoyées parce que sa sœur, évidemment, elle ne sait pas lire en Kabylie. Donc c'est un prétexte pour lui de lâcher tout ce qu'il a sur le cœur. Et il raconte à ce moment-là ce qu'il voit et ce qui le touche. Et c'est une manière d'être dans la transmission aussi. Mais ça reste un secret de famille très longtemps enfoui.
Oui, parce que c'est sa petite fille Leïla. Lui, il a disparu depuis très longtemps, un certain 17 octobre 1961, lorsqu'il manifestait pacifiquement pour l'indépendance de son pays, l'Algérie. Et il y a un mouchoir, on va dire, sur son histoire et sur sa disparition. Et un jour, Leïla, qui a une amitié contrariée avec sa meilleure amie, Anne, qui est juive, essaye de fouiller un peu. Elle sent qu'il y a quelque chose qu'on lui cache dans la famille. Et elle découvre le pourquoi de l'amitié des deux familles, l'une juive et l'une musulmane, à travers ce témoignage du grand-père qui a eu une action pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Juifs.
Et c'est une action qui est oubliée. Aujourd'hui, on a oublié les justes musulmans, les justes kabyles, les résistants kabyles. Et je trouvais que c'était important de rappeler ces moments de fraternité à une époque où on parle beaucoup d'antisémitisme de la part des populations maghrébines. Et je voulais rappeler aussi qu'il y a eu cette fraternité, il y a eu cette lumière dans l'obscurité et que les choses, comme on le disait tout à l'heure, ne sont pas toujours si manichéennes.
Oui, et puis il y a eu, là aussi, l'humain est passé par là. Il y a encore une histoire d'amour entre ce grand-père, Salah, et une certaine Simone, qui est juive.
Qui est juive, mais j'aime bien les couples impossibles un peu.
Vous aimez bien les Roméo et Juliette. Hein.
Voilà, c'est ça. Parce que l'amour, c'est ce qui finalement nous rapproche. C'est cliché encore une fois de dire ça, mais qu'est-ce qui peut rapprocher au-delà de l'amour?
Et puis vous mettez en lumière, effectivement, cette figure terrible de Maurice Papon, qui était préfet de police, donc notamment entre 58 et 67, et qui est donc responsable de ces Algériens morts noyés dans la Seine, ce fameux 17 octobre 61, et c'est une page d'histoire qui n'est quasiment pas enseignée. Et c'est l'ennemi commun des Juifs et des Algériens dans ces années-là.
Mais là, alors là, ça m'a stupéfaite d'apprendre que Maurice Papon, qui avait déjà la responsabilité du 17 octobre 61, qui avait cette responsabilité envers la mort des Juifs et qui n'a jamais été... il a continué sa carrière comme si de rien n'était. Moi, je trouve
il a
ça,
été ministre sous le gouvernement de Giscard.
Oui, mais moi, je ne comprends pas comment on a pu laisser passer ça. Vraiment, à l'aune d'aujourd'hui, quand on regarde, c'est inadmissible qu'il ait pu continuer sa carrière politique sans être inquiété.
Alors évidemment, quand on vous lit, Nadia, on a en tête ce qui se déroule, par exemple, et si douloureusement, du côté de Gaza et du côté d'Israël. Et en vous lisant, on a l'impression que vous êtes en train de nous dire que finalement, la clé de nos conflits d'aujourd'hui se trouve peut-être dans la poche aussi de nos anciens.
C'est intéressant, l'histoire de la clé, puisqu'il y a l'image, hein, vous savez, de ces Palestiniens de 48 qui brandissent souvent cette clé de leur ancienne maison. En fait, le présent s'explique toujours par le passé. Enfin, pour moi, c'est clair. Et quand on voit ce qui s'est passé, il y a des images terribles et il y a cette responsabilité de l'Europe qui a laissé ces Juifs se faire massacrer. Bon, 6 millions de morts juifs. Il y a ces images terribles de l'Exodus, ce bateau qui erre parmi, comme ça en mer et que personne ne veut accueillir. Et que, tout ça, ça a scellé aussi quelque part après le sort, j'ai envie de dire, des Palestiniens. Mais c'était une terre qui était habitée. Je veux dire, il y a une antienne qu'on dit souvent, c'était un peuple sans terre, une terre pour
sans
un peuple.
Peuple.
Mais non, il y avait des gens qui habitaient là. Et donc, voilà, je trouve qu'il faut remettre un peu les choses en perspective et trouver comment aujourd'hui vivre ensemble. Parce que c'est ça la question. Mais que ce soit en Israël ou en Palestine ou que ce soit en France, on est traversé par la même question. Comment on fait pour vivre ensemble ?
Entre vos romans et votre casquette de journaliste, est-ce que vous avez l'impression d'être un peu la tête ici et le cœur là-bas?
C'est une question difficile. Parce que je me la pose perpétuellement de savoir comment je vais faire, qu'est-ce que ici, qu'est-ce que là-bas. Et c'est la fiction qui me permet de rejoindre les deux, d'arriver à mettre les choses ensemble. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi, la fiction.
Merci Nadia Trobi-Safsaf de cette belle visite en sol majeur. Et puis il n'y a plus qu'à vous lire et à se quitter. Bah, tiens, dites donc, c'est incroyable, un groupe Fetzaïr. Babylone, c'est le groupe Babylone, avec une chanson intitulée Zina. Pourquoi cette chanson ?
Zina, c'est le prénom de ma maman et ça veut dire beauté. Mmh. Et puis c'était un hommage à ma maman, elle aime beaucoup cette chanson. Et puis moi, quand je l'entends, forcément, bah, je pense à elle.
Aïma, Aïma. Voilà.
اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواج وداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمام يا نجمام بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي فضلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وكنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي ايه سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا اه يا سينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا
En sol majeur, Made in Algeria, Juste Chouia, émission à réécouter en podcast sur votre application préférée, Pure Radio éventuellement, à retrouver sur nos réseaux sociaux et derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous chauffe le fauteuil demain pour accueillir Olivia Ruiz.
Tous les cinémas du monde.